Bah, c'est pas tant que ça a changé, c'est que le travail de 10 ans de défense a été d'écarter tout un tas d'éléments qui avaient été agglomérés pour justifier nos arrestations le 11 novembre 2008, et dont quasiment aucun n'était fondé. Et donc c'est le fait d'avoir attaqué pied à pied chacun des éléments de l'accusation qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec une structuration de l'accusation qui est totalement différente. Pour nous, il va s'agir d'établir que le fait même que cette revendication allemande ait été mise de côté, le fait même qu'il n'y ait eu aucune instruction digne de ce nom sur l'ensemble des autres sabotages, à part celui qu'ils ont tenté d'attribuer à Julien Hildun, et la preuve même qu'il ne s'agissait pas d'arrêter les gens qui étaient soupçonnés d'avoir participé à ces sabotages, mais de faire tomber dans la réalité, disons judiciaire, l'existence d'un groupe anarcho-autonome à visée terroriste, qui devait servir d'épouvantail à ce que les RG avaient mis en récit dans leur rapport de 2008, qui était une radicalisation d'une frange de la jeunesse après les mouvements contre le CPE, et qui avait été repris par Michel Alliomarie, qui avait agité le chiffon rouge en disant « voilà, on a ici des dizaines d'actions directes en puissance », et qui était surtout voilà, une façon de venir clôturer une période d'agitation politique qui n'ont pas du tout réussi à clôturer à travers ça. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là où tout le monde pense que l'affaire de Tarnac commence le matin du 11 novembre 2008, au moment où la police antiterroriste débarque sur la ferme du Goutaillou et dans le bourg de Tarnac pour arrêter ce qu'ils ont appelé, dès les premières conférences de presse, la cellule invisible, les soi-disant saboteurs de TGV, eh ben c'est pas du tout le début, on est au milieu de l'opération de police qu'on appelle aujourd'hui affaire de Tarnac. Le 11 novembre, ça fait déjà 6 mois que la police antiterroriste a été chargée par le parquet antiterroriste de Paris de lancer une enquête préliminaire sur un groupe anarcho-autonome à vocation terroriste, donc fable qui a été nourri par un rapport des renseignements généraux qui sera mis sur le bureau de la ministre en juin, mais qui nourrit déjà l'ensemble des conjectures que font les services à notre propos et au propos de toute une frange de la jeunesse qui, pour utiliser une expression à la mode, s'est radicalisée depuis le printemps 2006. Donc l'affaire ne commence pas le 11 novembre, mais elle commence en avril 2008 avec le déclenchement de cette enquête préliminaire où les services, et notamment la SDAT, la sous-direction antiterroriste, s'intéresse à Julien Coupa et à ses amis, et donc nourrissent un dossier de renseignement avec tous les moyens de l'antiterrorisme, qui sont des moyens très conséquents, d'écoute téléphonique, de captation de flux internet, de filature, de mise sous vidéosurveillance des logements, toutes sortes de choses, y compris quand on ne connaît pas toute l'extension. Et donc on arrive en octobre 2008, et ce qu'on comprend bien après, c'est que les services sont bien en mal de justifier la continuation de leur enquête préliminaire et des moyens qui leur sont alloués. Et finalement, l'affaire des crochets, l'affaire des sabotages des caténaires de ligne TGV, qui est donc en gros, grosso modo, une opération de débranchage mécanique d'alimentation électrique des trains, arrive un peu comme une aubaine aussi pour faire tomber toute cette construction un peu fictionnelle d'un groupe anarcho-autonome terroriste, le faire tomber dans la réalité médiatique et judiciaire. Et pour que cette opération marche, il s'agit aussi de gommer la nature réelle de cette opération de sabotage. C'est-à-dire que l'opération de sabotage, on le comprend en mettant le nez dans le dossier bien plus tard et en s'intéressant un peu à la question. La nuit du 7 au 8 novembre, c'est la date du passage d'un train de déchets nucléaires qui s'appelle le train Castor, qui va du centre de retraitement de déchets de la Hague au centre d'enfouissement de déchets nucléaires ultimes de Gorleben, dans le nord-est de l'Allemagne. Centre à propos duquel se densifie depuis plus de 20 ans une lutte très importante du mouvement antinucléaire allemand, qui passe par toutes sortes de choses, donc des manifestations pacifiques, des blocages avec des tracteurs, des gens de cette région qui s'appelle le Wendland, mais aussi par des dégradations régulières sur l'ensemble des voies ferrées par lesquelles passe le train Castor. Et il se trouve que donc la police reçoit une revendication la nuit suivante, ou le jour suivant reçoit une revendication via la presse allemande de ces sabotages, qu'elle écarte immédiatement parce qu'elle ne rentre pas dans le storytelling policier.